Luc Fortin, rebonjour.
Bonjour Steve.
Un grand plaisir de te retrouver ce matin pour parler de politique provinciale et d'un faux pas monumental de la ministre de l'Environnement, je devrais dire l'ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui s'était fait poser la question, en tout cas, il y en a eu quelques-unes, disons, de mauvaises réponses, mais parmi les plus marquantes, possiblement sur le fond vert, on lui avait dit « Expliquez ça pour monsieur, madame, tout le monde. »
Elle aurait besoin de se faire expliquer, tu sais.
Elle a patiné pendant à peu près 2 minutes, évite la question.
C'est une pièce d'anthologie.
Oui. Tristement, je suis obligé d'être d'accord. Mais finalement, on la remplace.
Absolument.
En soi, c'est une bonne nouvelle, je pense. Là.
Ben, écoute, moi, je vais commencer l'année en complétant ma trilogie de chroniques sur les défis de l'année. Je vais te parler des défis des députés fédéraux, mais on va devoir attendre à demain parce qu'on s'est rendu compte que peut-être François Legault nous écoute le matin. Hein, hier, à 7h10, on parlait de sa ministre de l'Environnement. 16h15, était parti. Mais sérieusement, je pense qu'il écoutait bien du monde dans le temps des fêtes au Québec. Évidemment, c'est pas une décision facile qui a été prise par le premier ministre hier, en début de mandat comme ça, mais je pense que c'est la décision qu'il devait prendre. Parce que sa ministre de l'Environnement était devenue la cible des attaques, des railleries également.
Et
c'est
là,
devenu une distraction par le gouvernement.
On allait retourner en chambre, parce que tant que tu peux la cacher, c'est pas pire. Mais quand tu vas la ramener en chambre, puis toutes les questions vont être dirigées sur elle, question après question.
Ben, tu sais, parce qu'elle a été identifiée comme étant la cible, le maillon faible du gouvernement. Alors, c'est sûr que tout le monde la cible également. Alors, c'est pourquoi il devait le faire rapidement. Puis hier, François Legault, il nous a parlé beaucoup des journalistes. On a vu, tu en as parlé, certains scrums qui ont été très difficiles. Puis tu parlais de la Chambre. Puis il y a eu une question en Chambre, rappelle-toi, l'automne passé sur Coventry, hein, qui est un sujet environnemental très important pour notre région à nous. Une question posée par la députée libérale Marie Montpetit. Elle a vraiment déstabilisé la ministre à un point tel, parce qu'en chambre, à la période de questions, il y a une question principale, puis il y a deux questions complémentaires sur un même sujet. Alors, même à la question principale de la députée Montpetit, c'est le premier ministre qui s'est levé pour répondre. Habituellement, le premier ministre se lève juste pour répondre au chef de parti.
Mm-hmm.
Alors, c'est soit qu'il n'avait pas confiance dans sa ministre pour répondre, ou il a vu que visiblement, elle ne savait pas de quoi elle parlait, qu'elle était prise par surprise, puis il a dit « Ben, je vais prendre la question ». Lui a laissé répondre à la question complémentaire. Ça a été très difficile. Elle a parlé de Gilles Bélanger. Elle s'est même mêlée dans son nom de comté. Et à un point tel que le premier ministre a pris la deuxième question complémentaire.
Là, c'est un sauvetage rendu là.
Ben, c'est un sauvetage, puis c'est un signe que tu envoies là. Puis le premier ministre n'aime pas ça se lever pour répondre aux questions des députés qui sont pas chefs de parti.
Et surtout, Luc, soyons honnêtes, on avait ciblé beaucoup la CAQ comme étant pas nécessairement un parti très environnemental. On n'avait pas de plan. François Legault, s'en était pas caché d'ailleurs, disait non, c'est vrai qu'on n'a pas, pas vraiment de plan non, là-dedans. Mais là, tu dois avoir quelqu'un qui se démarque dans ce cas-là, puis de façon positive, qui s'en va te montrer, puis de confiance, aplomb. Tu parlais de Coventry. Pour eux, ce n'était pas un problème. T'sais, ils étaient tellement peu au fait du dossier qu'on disait, y a-tu vraiment un problème là?
On fait confiance au gouverneur. T'sais,
il
nous a rassurés là-dessus.
Les Américains nous ont dit ça va bien.
Ça va bien aller. Alors, puis le premier ministre, justement, puis peut-être qu'il n'était pas... Puis c'est normal que le premier ministre soit pas au fait de tous les dossiers plus.
Ben oui.
Puis il répond à la question avec une réponse un peu évasée, puis c'est fait critiquer. Là-dessus, on l'a vu dans les médias ici. Puis oui, ils ont sous-estimé l'environnement. C'est un sujet qui est excessivement important, de plus en plus important, et c'est une bonne chose, moi, je pense. Alors, elle n'était pas la personne pour remplir ce défi-là. Tu parlais de timing tantôt. Moi, je pense que c'est un bon timing pour François Legault. Il a voulu partir l'année 2019 du bon pied et la Chambre reprend le 5 février. Faut que tu laisses quand même du temps au ministre, au nouveau ministre, d'apprendre ses dossiers. Alors là, tu lui laisses presque un mois pour se faire une tête. Donc, je suis confiant que lui, il va être prêt pour rentrer en Chambre.
Voilà. C'est étonnant quand même que ce soit si rapide, par contre. Non, d'un œil extérieur?
Ben oui, parce qu'habituellement, tu sais, les premiers ministres vont être plus tolérants parce que tu sais que ça a des conséquences sur ton caucus quand tu prends des décisions comme ça. Surtout que là, il a fait monter un nouveau député. Il a pas fait un ajustement avec des ministres en place. Donc là, tu as créé de la déception chez d'autres qui sont restés sur la touche, qui étaient déçus de la sermentation du mois d'octobre. Donc, une deuxième déception rapidement. Puis, quand tu es ministre, tu es député, tu dis « Écoute, là, le premier ministre, il vient de larguer quelqu'un rapidement. Si moi, je fais une gaffe, est-ce qu'il va me larguer aussi? » Fait que pour l'esprit d'équipe, il y a quelque chose à gérer là. Je pense qu'on doit avoir une grosse gestion de caucus hier. Puis là, la grande question, c'était « Est-ce que c'est un aveu d'erreur de la part du premier ministre? » Il s'est fait poser la question hier dans son point de presse. Là, il n'a pas répondu comme ça, mais par ses gestes, c'est un peu ça. Mais en même temps, oui, c'est une erreur parce que c'est sa responsabilité des nommés. Il nous a dit en campagne électorale qu'il choisissait tous ses candidats, donc il devait les connaître. Mais à sa décharge, à François Legault, Madame Chassé a quand même un parcours impressionnant, un CV impressionnant. Son premier fait d'armes en politique, c'est de défaire Pierre Moreau dans Châteauguay.
C'est
quand,
pas rien.
Ben, c'est quand même pas rien. Mm-hmm. Sauf qu'il aurait dû avoir cette sensibilité-là de prendre un député avec une expérience politique pour occuper un ministère aussi important. Mais le paradoxe, c'est quand tu as une expérience politique, c'est le ministère où tu veux pas aller. Même si tu vas...
Ah oui?
Parce que, tu sais, même si tu vas en politique, souvent on dit pour nos enfants, nos petits-enfants, puis tu sais, si tu veux agir pour eux autres, l'environnement, c'est une bonne
pas
place pour
bonne
le
place,
faire.
Ouais.
Sauf que tu sais que politiquement, c'est un ministère qui est difficile parce que tu gères toujours des mécontents.
Mm-hmm. Les groupes de pression.
Ben, les groupes de pression, les groupes environnementalistes vont me dire c'est jamais assez. Puis avec raison, parce que je pense que collectivement, on fait pas assez pour l'environnement. Puis pour les autres, ben tu vas être celui qui va empêcher de développer des projets pour sauver trois couleuvres. Alors, tu gères toujours des mécontents. Puis surtout auprès de tes collègues. Alors, tu sais, moi, je sais, les ministres d'environnement au caucus passaient des fois des mauvais quarts d'heure parce que il y avait un BAP ou il y avait un avis environnemental négatif sur un projet, puis les députés, ben, se faisaient pas leur affaire. Mais le premier ministre, je pense justement, oui, c'est surprenant qu'il ait agi aussi rapidement, mais je pense que ça démontre un leadership de sa part aussi, et puis qu'il ne fait pas l'autruche. Il a vu que ça n'allait pas, il a pris une décision difficile, mais je pense qu'il est à moyen terme est la bonne pour son gouvernement et la bonne également pour Mme Chassé, parce que tu sais, ce matin, on en fait une analyse là, froidement comme ça, mais... Il y a un drame humain derrière ça. Là.
C'est rapide, mais ce sera probablement payant à moyen et long terme.
Oui.
J'ai envie de t'amener sur la politique américaine. Tout le monde était... Bon, bien des gens étaient arrivés là, hier à 9h oui. sur leur grand écran, parfois sur une chaîne américaine, parfois sur une chaîne canadienne en retransmission. Donald Trump s'est adressé à la nation. T'en as pensé quoi de sa promotion de ce grand mur à la frontière?
Ben, tout d'abord, sur la forme, moi, je l'ai suivi. Moi, j'ai suivi son discours et les répliques sur CNN. Et puis, je trouvais ça étonnant qu'il réquisitionne les médias traditionnels pour s'adresser à la nation, les fake news médias. Là,
ben
ça
oui.
avait une utilité tout d'un coup. Il aurait pu être cohérent avec lui-même pour faire un live sur Facebook. Mais non, il a choisi les médias traditionnels qu'il détestait pour s'adresser.
Ou sur Twitter.
Ou sur Twitter aussi. Mais écoute, sur la forme, moi, j'ai pas trouvé ça convaincant. Parce qu'on n'a rien appris de nouveau. Habituellement, lorsque tu fais une adresse à la nation, c'est un moment qui est très solennel, tu te veux rassembleur. Là, ça a été un exercice très partisan.
Mm-hmm.
Et puis, avec des éléments déjà connus là, de part et d'autre. Ça a été un exercice de relations publiques où lui, comme président républicain, a fait valoir ses arguments. Et il y a eu la réplique de la leader de la majorité à la Chambre démocrate et du leader de la minorité démocrate au Sénat qui ont fait valoir leurs arguments. Mais où il a perdu beaucoup de crédibilité, c'est à l'épreuve des faits. Quand il dit que, bon, il a répété encore une fois que c'est le Mexique, en vertu de la nouvelle entente de libre-échange avec le Mexique, qui va payer le mur, alors qu'on sait que c'est pas le cas.
Non.
Le grand paradoxe, c'est que l'enjeu là, du blocage, de la fermeture du gouvernement américain, c'est que justement, il demande de l'argent pour construire son mur. Alors, quelque part, c'est les Américains qui vont payer pour le mur. Alors, il n'y a pas personne qui est dupe là-dedans. Il a même parlé du matériel pour construire le mur en disant « Ben moi, je voulais un mur en béton, mais là, les démocrates nous demandent un mur en acier. Alors, moi, je leur donne. » Puis en me disant « Je ne comprends pas pourquoi maintenant, ils veulent plus ça. » Alors que les démocrates nous disent « Ben, on n'a jamais demandé ça. » Puis les chroniqueurs aussi disaient « Ben, c'est vrai que ça n'a jamais été sur la place publique. Les démocrates ont demandé ça. » Puis moi, ce qui m'a frappé hier, j'ai trouvé très drôle. Parce que j'ai suivi ça, comme je te disais, à CNN. Tu sais, habituellement, quand un élu, il y a une annonce, les analyses, après, c'est l'analyse à chaud, puis qu'est-ce qu'on t'en a pensé? Mais là, la première étape, c'était l'épreuve des faits, c'est quoi? Puis là, tu avais une brochette de commentateurs là, de toutes origines. Il y avait même un Canadien du Toronto Star qui était là, puis là, il passait toutes les éléments qui avaient été dits par Donald Trump dans son discours, puis visiblement, ça passait pas la rampe.
Il fait mal quand même à la profession, hein, parce que, tu sais, une annonce à la nation, puis je parle au rôle de président, c'est pas la première fois, remarque, qu'il est à l'extérieur du cadre, mais, tu sais, normalement, ces annonces à la nation-là étaient très solennelles, très, tu sais, il y avait quelque chose... Le moment est grave. Quand tu t'adresses à heure de grande écoute, tu prends, tu réquisitionnes toutes les chaînes, c'est parce qu'il se passe quelque chose.
Ben oui, puis alors que là, lui, il veut faire croire qu'il se passe quelque chose. Il veut convaincre les Américains qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une crise humanitaire à la frontière sud. C'était ça le but de l'exercice. Alors qu'habituellement, lorsque tu es à la veille de déclarer la guerre, parce que souvent les présidents vont s'adresser à la nation dans une déclaration de guerre, et il se passe quelque chose, tu n'as pas besoin de convaincre personne. Tu annonces quelque chose, mais là, lui, il fait une adresse à la nation pour convaincre son propre monde de son point. Honnêtement, puis je pense qu'il n'a pas été convaincant.
Non, pas tout à fait. Merci beaucoup, Luc Fortin.
Hey, bonne journée
à toi.
Au plaisir
de se reparler demain.